Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Fragile dès sa naissance, discrète toute sa vie et pourtant profondément lumineuse. De Caracas à Toulouse, Sainte Carmen Elena nous montre que la sainteté peut naître au cœur même de l'ordinaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vivante Église. Sainte Carmen Elena, une sainteté faite d'humilité, faite de douceur, faite de service, une vie où Dieu fait œuvre de tendresse dans la fragilité. Et c'est cette rencontre qui a pour nous, ici à Toulouse, un écho tout particulier, car cette première sainte du Venezuela a été profondément marquée par notre ville. Elle y a vécu une étape décisive de sa formation religieuse, recevant un héritage spirituel marqué par l'adoration eucharistique. C'est ici qu'elle a puisé ce qu'elle appellera plus tard son berceau spirituel, une expérience fondatrice qui va marquer toute sa vie. Nous verrons aussi comment cette vie s'inscrit dans une filiation spirituelle plus large, notamment à travers une figure française peu connue aujourd'hui. Et pour nous accompagner dans ce Vivante Église consacré à Sainte Carmen Elena, première sainte du Venezuela, j'ai la joie d'accueillir François Bonfils, professeur de littérature comparée à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, spécialiste des littératures hispaniques et de la littérature religieuse. Il est licencié en théologie. Bonjour François Bonfils.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Comment cette figure de Carmen Elena Randillès s'est-elle imposée à vous, François Bonfils ?
Eh bien, c'est dans le cadre de mon travail. Comme vous l'avez dit, je travaille sur la littérature religieuse et une congrégation religieuse toulousaine qui était en voie d'extinction m'a demandé de faire un travail sur... leur fondatrice, Mère Jeanne Onésime Guibré, fondatrice d'une congrégation à Toulouse, les Servantes de Jésus dans le Saint-Sacrement. J'ai donc travaillé sur des archives et fait tout un travail de recherche. Et un jour, je trouve sur Internet une biographie en espagnol de cette Toulousaine, Onésima Guibré. Et je m'interroge pourquoi ce texte en espagnol. Et c'est ainsi que je vais découvrir que cette biographie en espagnol a été demandée, écrite, traduite, je ne sais pas, je vais rechercher, par une certaine Carmen Elena Randillès au Venezuela. Et de là va naître pour moi un intérêt pour cette personne, dont je découvre qu'elle est en procès de béatification. À l'époque, elle n'était pas, on est en 2015, elle n'était pas encore bienheureuse. Et voilà. Et donc, mes recherches m'ont conduit à établir une sorte d'amitié, pourrait-on dire, avec les religieuses françaises à Toulouse et la découverte de cette religieuse au Venezuela qui elle-même avait fondé une congrégation fille, mais nous pourrons reparler de cette question, fille de la congrégation de Toulouse. Et donc il y a eu des tentatives de rapprochement entre les congrégations et moi, comme je parle l'espagnol, j'ai aussi servi d'intermédiaire. Donc cette Carmen Elena est entrée aussi dans ma vie, on va dire, dans des démarches de rapprochement entre congrégations que j'ai pu servir à mon niveau. Et j'ai donc été très frappé de voir, puisque j'ai rencontré des personnes qui avaient connu Carmen Elena, que les travaux que je faisais sur Mère Onésime Guibré au XIXe siècle avaient une existence encore aujourd'hui, que ce n'était pas simplement un travail d'archives ou d'histoire comme je suis habitué à faire avec d'autres écrits de religieuses, mais qu'il y avait une sorte de vie spirituelle des textes que j'étais en train d'établir. Donc cela a été pour moi très important. Et dans la création de cette amitié avec des religieuses, j'en suis venu à la rencontre d'une personne au-delà des écrits. Et Carmen Elena est entrée dans ma vie véritablement comme un individu et pas simplement comme une autrice qui suivait et qui réécrivait ou traduisait les textes de la Toulousaine. Donc j'ai eu une sorte de connexion, on pourrait dire, avec cette personne, enfin, au point que ma fille porte son prénom.
Alors oui, voilà. Donc, pour dire, alors vous avez été, on a préparé bien sûr cette émission avec vous, François Bonfils, que nous consacrons à cette première sainte du Venezuela, qui sera d'ailleurs célébrée pour la toute première fois le 9 mai 2026, donc c'est une première. Vous avez été, vous, et vous ne pouvez pas l'écarter, vous voulez en parler, et très vite, c'est cette fragilité que l'on retrouve dans sa vie, dès sa naissance, et son handicap. Quelques mots.
Alors en fait, je me suis d'abord intéressé à sa doctrine spirituelle, mais très vite, je me suis rendu compte qu'elle était une personne handicapée. Et c'est un point central de sa vie et qui m'a d'autant plus rapproché de sa personnalité que la question du handicap me touche à titre personnel. En fait, Sainte Carmelle Elena est née dépourvue de bras gauche. D'accord ? Donc elle était manchote et... son rapport au handicap est constitutif de sa vie spirituelle.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet handicap, hein? Est-ce que cet handicap va devenir, hein, au cours de sa vie, au fond, et ça c'est tout le paradoxe, une force?
Exactement, elle le dira, elle l'a écrit, elle dit que son handicap a été une grâce. Hein, c'est son mot. Si vous voulez, on peut peut-être en parler un petit peu. En fait, elle est née en 1903, donc c'est une sainte contemporaine. Elle est morte en 1977. Il y a des gens qui l'ont connue, même à Toulouse. Elle est née dans une famille qu'on pourrait dire une famille très aisée de son pays. Elle est en Amérique latine, il faut l'imaginer, dans un monde qui n'est pas du tout le nôtre. Et dans cette famille, elle reçoit une éducation très soignée, mais son handicap dans son enfance n'est pas un obstacle. Elle reçoit, elle est scolarisée, même enfant, elle fait du sport et les sports qui sont à la mode dans son milieu social. Elle joue au croquet, elle fait du tennis avec un seul bras. Mais à l'adolescence, à l'école, elle va subir le regard des autres, ce qui est fréquent chez les personnes handicapées au moment du handicap, au moment de l'adolescence. Elle va subir une sorte de rejet. On a des témoignages où, par exemple, elle demande à ses professeurs de ne pas aller au tableau. En Amérique latine, à partir de l'âge de 15 ans, l'âge de 15 ans est un moment très important, particulièrement célébré. Elle aurait été amenée à avoir une vie mondaine et à faire des sorties sociales qui étaient propres à son milieu. Mais en raison justement de ce regard des autres et peut-être aussi dans le cadre de sa famille, elle va être maintenue en retrait de ses actes mondains. Elle va vivre le handicap comme un empêchement à, par exemple, elle en fait témoignage, porter des habits. On est dans les années 20, c'est la mode du Charleston. On a des photos d'elle où elle est habillée, très élégante, etc. Elle dira que le handicap l'a empêchée de vivre. Par exemple, la mode. Elle ne le regrettera pas plus tard. Hein, mais le handicap est constitutif, justement, d'un début de retrait du monde qu'au début, elle subit. Voilà. Alors, ce qui va se produire, c'est que le handicap, comme je vous l'ai dit, elle reçoit une éducation très soignée, on pourra y revenir, mais dans son enfance, au début de son adolescence, elle est un petit peu comme un athlète. Hein. Un saint, c'est toujours quelqu'un qui est un peu un héros. Hein. Elle va par exemple demander à recevoir des cours d'ébénisterie. Et ses parents vont l'amener chez un ébéniste et elle va faire des meubles. On conserve des meubles qu'elle a fait avec une seule main. Donc, elle a voulu se dépasser. Et le rapport de Carmen Elena à l'artisanat et ensuite avec l'art, parce qu'elle va aussi être peintre, est très important. Il y a cet aspect, je veux me dépasser.
Il y a un aspect aussi de dépassement chez Carmen Elena.
Oui, le handicap, au début, elle a voulu le dépasser. Ce qui s'est produit, c'est que quand elle a eu 18 ans, et donc elle était donc dans cette sorte de retrait, elle était dans une famille d'enfants nombreux, elle avait 7 frères et sœurs, et son frère, on va dire, préféré, celui avec lequel elle avait un amour de prédilection, est mort. Et de cette mort, beaucoup souffert, au point qu'elle est tombée dans un état qu'à l'époque on n'a pas su qualifier. On ne savait pas si c'était... Son frère est mort du typhus, on ne savait pas si elle-même avait... enfin, on ne savait pas déterminer sa maladie.
Donc sa maladie n'a jamais été diagnostiquée.
Non, mais en fait, aujourd'hui, on parle très volontiers de mélancolie. Il est difficile de parler de dépression pour une sainte. On a toujours du mal à... Enfin, c'est difficile, si vous voulez, de parler des limites des saints, mais enfin... Concrètement, elle a été. Les médecins ont estimé qu'elle devait quitter Caracas, la capitale du Venezuela, et être envoyée au repos à Los Teques, qui est une ville qui est à une trentaine de kilomètres de Caracas, en altitude, dans un climat qui lui serait favorable. Et là, elle va passer 2 ans, donc encore plus isolée, loin de sa famille, où elle va donc traverser une épreuve donc, de maladie physique et psychique. Voilà.
Est-ce qu'on peut parler de, puisque vous avez évoqué maladies à la fois physiques et psychiques, est-ce que dans ces deux maladies, on peut noter une forme de maladie aussi de l'âme, d'une maladie spirituelle?
Oui, on peut dire qu'elle commence très jeune, à l'âge de 18 ans, à connaître l'expérience de la nuit obscure que traitent de nombreux mystiques. Oui. Mais. Dans la mesure où c'est une sainte contemporaine, on peut peut-être qualifier cette nuit obscure d'une façon plus précise.
Alors le temps passe vite, hein. François Bonfils, donc il y a ces 2 ans de retrait, à quel moment nous devons avancer bien sûr dans ce parcours, et puis j'invite les auditeurs à devenir peut-être un peu curieux et puis à chercher et à approcher cette nouvelle sainte qui est la première sainte du Venezuela et qui est aussi cette sainte qui est donnée pour l'Église universelle. La vocation, est-ce que vous pouvez en parler de ce moment précis où Dieu va se révéler à Sainte Carmen est là plus en profondeur pour venir quelque peu l'attirer et puis l'appeler.
Alors cette vocation religieuse, elle surgit véritablement pendant ces 2 années qu'elle est obligée de passer en dehors de Caracas. Quand elle revient dans sa famille, son père va mourir, ça va être une épreuve, mais là elle a déterminé qu'elle veut entrer en religion. Mais elle va frapper à la porte de nombreux couvents et elle est systématiquement refusée en raison de ce handicap. Hein. Il y avait des lois canoniques qui interdisaient aux personnes handicapées d'entrer en vie religieuse. Et pendant 3 ans, elle cherche des couvents. Et en désespoir de cause, étant toujours refusée, elle va décider de se consacrer dans sa maison en aidant sa mère, donc veuve, à organiser la maison, d'autant plus que son père étant mort, le haut rythme, le haut niveau de vie qui était celui de sa famille a diminué et elle s'est substituée, on va dire, à certains domestiques. Et elle apprend en décembre, donc un peu désespérée de ne pas pouvoir devenir religieuse, elle vit comme une religieuse à la maison. Mais en décembre 2026, elle apprend l'arrivée de ce qu'elle appelle des sœurs françaises à Caracas. Ces sœurs viennent de Toulouse. C'est une amie à elle qui lui dit « Il y a de nouvelles sœurs qui arrivent ». Et donc, elle va se précipiter à la porte de ce couvent qui existe encore aujourd'hui et frapper à la porte. C'est le début de son aventure dans la vie religieuse et de sa connexion avec Toulouse.
Voilà, et puis on y arrive, hein, si vous voulez bien. Nous enregistrons ici, dans ces studios de Radio Présence Toulouse, cette ville rose qui a marqué une grande partie de la vie de cette sainte. Pouvez-vous nous donner peut-être des grands épisodes de ce passage de Sainte Carmelina ici, dans cette ville de Toulouse? On vous écoute.
Oui. Alors, ce qui va se passer, avant de parler vraiment de sa venue à Toulouse, parce qu'elle va être amenée à vivre à Toulouse, les sœurs qui viennent d'arriver à Caracas, dont une qui s'appelle Mère Marie-Antoinette Baconnier, donc une Toulousaine, sont très surpris de voir frapper à leur porte, alors qu'elles viennent d'arriver, entre guillemets, en pays de mission, une jeune fille qui demande à vivre avec elle. Et elles sont d'autant plus surprises qu'elles leur parlent en français. Et ça, c'est un point très important pour comprendre la connexion avec Toulouse. Pourquoi vont-elles l'accepter au noviciat alors qu'elle est handicapée? Parce que Sainte Carmen Elena parlait en français. Du fait de son milieu, elle a été élevée dans un lycée de religieuses dont la congrégation était d'ailleurs d'origine de Tarbes, les Sœurs de Saint-Joseph de Tarbes, fondées à Cantaous, pas très loin de Lourdes, qui avait un lycée à Caracas. Et donc, elle parlait français. Et elle a donc pu s'adresser directement à France, en français, à Mère Marie-Antoinette Bagonier, qui, elle, ne savait pas parler l'espagnol. Et on a vu en cela un signe providentiel qui fait que 2 mois à peine après, en février 2027, elle est admise au noviciat. Là, elle va faire tout son parcours de postulat, de noviciat, de juniorat à Caracas. Et elle fait sa profession solennelle, sa profession perpétuelle en 1932. Et comme on perçoit en elle une figure exceptionnelle, ses supérieurs l'envoient à Toulouse pour qu'elle connaisse véritablement et profondément sa congrégation, sa fondatrice, la spiritualité. Donc elle vient à Toulouse alors qu'elle est déjà religieuse de la congrégation de Toulouse.
Vous nous donnez des dates de son arrivée.
Oui, alors elle arrive à Toulouse.
Elle a vécu combien de temps ici, alors, dans cette ville de Toulouse?
Elle a, de cœur, elle a été toulousaine pendant toute sa vie de religieuse, hein, puisqu'elle a, elle a reçu tous les enseignements qui lui ont été transmis venant de Toulouse. Elle a été la première novice latino-américaine de cette congrégation. Elle arrive à Toulouse, elle fait sa profession le 8 septembre 1932, à Caracas, et elle est immédiatement, elle arrive à Toulouse, donc à la fin de l'année 1932, elle restera jusqu'en 1935, dans le couvent de fondation qui se trouve rue de la Dalbade, qui aujourd'hui a disparu, puisque la congrégation n'existe plus à Toulouse, il n'y a plus que très peu de religieuses en France, et le couvent où Sainte Carmen Elena, donc, est arrivée, a été transformée en résidence et en appartement. Mais elle y sera tellement attachée, à ce couvent, que dans les années 50, elle va demander la construction d'une réplique de la chapelle de son couvent de fondation à Toulouse, et elle fera venir même des vitraux fabriqués à Toulouse qui sont encore à Caracas. Et parmi ces vitraux, elle fera venir les dévotions qui étaient propres à sa congrégation, Thomas d'Aquin, à Toulouse, oui, sa présence est très importante, oui. Germaine de Pibrac, et elle va aussi faire découvrir Thérèse de Lisieux, qui n'était pas connue en Amérique latine dans les années 30.
Alors, qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Qu'a-t-elle vécu et que garde-t-on de Sainte Carmen Elena, très précisément de son passage ici dans la Ville Rose,
alors,
François Bonfils?
Aujourd'hui, la présence de Sainte Carmen Elena à Toulouse est un mystère et quelque chose de quasiment inconnu. Hein, c'est une figure qu'on a perdue, d'autant plus que la congrégation à laquelle elle appartenait a fermé la maison mère en 2019. Suivre de façon très méticuleuse les enseignements de sa fondatrice Jeanne Onésime Guibray au XIXe siècle. Elle s'est séparée, et c'est le cœur de son message, de ses sœurs françaises en 1965, dans un souci de suivre et de rester fidèle aux enseignements qu'elle avait reçus à Toulouse. Elle a été nommée maîtresse des novices de sa congrégation en 1935 et elle a fondé le premier noviciat en Amérique latine. Donc elle a transmis les enseignements qu'elle avait reçus à Toulouse durant toute sa vie. Ensuite, elle a fondé beaucoup de maisons, toujours dans l'esprit qu'elle avait connu à Toulouse. Durant toute sa vie, elle est revenue à Toulouse pour les chapitres. C'est les réunions des supérieurs des congrégations. Et on a une très nombreuse correspondance de Sainte Carmen Elena avec des religieuses françaises.
Elle a vécu combien de temps ici, dans la Ville Rose, hein, alors, au total? Est-ce qu'on a une petite idée?
Oui, alors de fin 1932 à 1935, et ensuite, durant sa vie, jusqu'en 1965, elle revient régulièrement pour les réunions. On sait qu'elle a été à Lourdes, voyez, elle est connectée, elle est la supérieure provinciale d'une congrégation dont la maison mère est à Toulouse.
Alors je vous propose, François Bonfils, de vous retrouver dans quelques minutes. On découvre avec vous cette vie, au fond, cette servante de Dieu, discrète, qui a été façonnée aussi dans cette fragilité. Mais quand on vous entend, cette fragilité est devenue une force. Elle a été aussi profondément enracinée dans cette ville de Toulouse. Et je vous propose d'écouter donc une musique, et vous allez en dire deux mots. Cette chanson était pour la canonisation de Sainte Carmen Elena, c'est ça?
Sainte Carmen Elena a été canonisée, donc déclarée sainte de l'Église universelle le 19 octobre dernier par le pape actuel, Léon XIV, Et à l'occasion de sa canonisation, il y a eu un hymne que nous pouvons écouter.
Et on va l'écouter tout de suite et on vous retrouve juste après. Et merci.
Nathalie Cardon.
De retour dans ce magazine Vivante Église, nous découvrons avec mon intervenant François Bonfils cette figure de cette sainte, Sainte Carmèle Elena Randiès, qui a été canonisée le 19 octobre 2025 par le pape Léon XIV, première sainte du Vénézuela. Elle a vécu ici, à Toulouse, dans notre ville rose. Quand on parle de sainteté, on évoque parfois, François Bonfils, les miracles des saints. Alors, que s'est-il passé dans ce parcours et cette vie de Sainte Carmèle Elena pour devenir la sainte qu'elle est aujourd'hui? Quels furent les nombreux miracles et peut-être le premier miracle? On vous écoute et merci.
Alors, il y eut durant sa vie des phénomènes miraculeux, mais je voudrais insister ici sur le miracle qui a été retenu pour sa béatification. Dans les procès de canonisation, il faut qu'un miracle soit reconnu. Et je voudrais juste décrire rapidement le miracle qui a conduit à sa béatification par le pape François en 2018. Donc, en 2003, dans le contexte du Venezuela, qui est un pays qui rencontre certaines difficultés, une chirurgienne a reçu une décharge électrique juste avant de faire une opération dans un hôpital. Et elle a perdu l'usage de son bras et elle n'a pas donc pu opérer. Elle a recherché, elle a consulté de très nombreux médecins et elle devait être opérée. Enfin, elle a fait des dizaines de consultations médicales et elle pouvait perdre l'usage de son bras. Et elle habitait dans le quartier où une religieuse morte en auteur de sainteté était enterrée. Et donc, elle a été priée dans cette chapelle où elle a été priée le Saint-Sacrement, mais sans connaître particulièrement cette religieuse. Et là, une religieuse est entrée dans la chapelle et a demandé à cette dame, qui est encore vivante, que j'ai rencontrée, hein, qui s'appelle Trinette Duran, pourquoi vous êtes là? Alors elle explique, je viens en désespoir demander ma guérison. Elle allait être opérée dans l'après-midi, ça se passait le matin, et elle risquait de perdre son bras. Et cette religieuse, qui s'appelait Sœur Saint-Louis et qui était la sœur de Sainte Carmen Elena, sa sœur de famille, a invité cette dame à entrer, à aller dans la chambre de Sainte Carmen Elena. Et là, il y a beaucoup de témoignages sur Internet où elle raconte ce phénomène. En entrant dans la chambre, elle a senti comme un écran qui l'empêchait de passer. Et puis, elle est entrée dans cette chambre, et là, il y avait un portrait de Sainte Carmen Elena, duquel, elle témoigne, est sortie une lumière qui est venue sur son bras. Là, elle s'est évanouie, elle a eu d'énormes sudorations, et il s'est produit un phénomène qu'on appelle l'ingravidité, c'est-à-dire qu'elle a perdu son poids, et la sœur Saint-Louis, qui est une religieuse très âgée, a pu la prendre dans ses bras et la poser sur le lit. Elle a été ensuite ramenée chez elle, alors qu'elle devait aller à l'hôpital, et elle a retrouvé son bras d'une façon jugée miraculeuse. Le miracle a été déclaré en 2017, c'est un des plus grands miracles contemporains. Bon, après, Sainte Carmen Elena a fait d'autres miracles. Mais elle a précisément guéri ce qui avait été le drame physique de sa vie, un bras qu'on risquait de couper. Donc il y a une connexion très forte entre le handicap et la dimension spirituelle. Et miraculeuse de Sainte Carmen.
Alors merci, vous nous avez relaté ce très beau et très grand miracle qui peut parler aussi et avoir un bel écho aujourd'hui dans cette émission et cette découverte de Sainte Carmen Elena. Chers auditeurs, vous pouvez apprendre aussi à l'apprivoiser, la rencontrer et demander son intercession. Il y a des prières, il y a une neuvaine à Sainte Carmen Elena. Alors quand on évoque cette sainte, il y aurait tant et tant de choses à dire. Vous ne pourrez pas tout délivrer du message du trésor et de l'héritage de Sainte Carmen Elena. Quel est son rapport à l'Eucharistie, François Bonfils?
Alors, toute sa vie spirituelle est fondée sur l'adoration du Saint-Sacrement. Sa devise est « Vive Jésus hostie » et elle tient tous ses enseignements de Mère Onésime Guibray. Sainte Carmen Elena a toujours dit qu'elle voulait simplement transmettre ce qu'elle avait reçu de sa fondatrice à Toulouse. Son charisme propre est un charisme de transmission. Et dans le contexte troublé de l'Église de France des années 1960, elle va précisément se séparer pour pouvoir maintenir ce qui était pour elle un trésor, puisqu'on a vu qu'elle a eu beaucoup de difficultés à devenir religieuse. Elle était d'autant plus attachée au charisme propre de sa congrégation. Et donc, quand on parle du charisme eucharistique de Sainte Carmen Elena, c'est en réalité le charisme, enfin, il vient du charisme de sa fondatrice toulousaine qu'elle transmet. Le charisme, c'est un don personnel qui est donné pour toute l'Église. Et le charisme de Carmen Elena, c'est le charisme de Mère Onésime, en tout point. Alors, si vous voulez, on peut venir sur certaines choses. Donc, ce qui est très important dans cette spiritualité, c'est le rapport à l'Eucharistie. Alors à la pratique, à l'assistance à la messe, bien sûr. Mais on ne peut pas en quelques minutes tout expliquer. Mais elle place au cœur de la vie spirituelle l'adoration et la réparation. Alors l'adoration, c'est donc vénérer l'Eucharistie en dehors de la célébration de la messe, soit au tabernacle, soit devant un ostensoir.
Alors, on précise, pour ceux qui prendraient peut-être cette émission à court ou qui se tomberaient par providence sur cette émission et notre antenne, l'adoration eucharistique, l'Eucharistie, c'est pour les croyants Jésus vivant, dans sa très sainte Eucharistie. Allez-y, François Bonfils.
Donc, Sainte Carmen Elena, effectivement, invite ses religieuses à être des sentinelles du tabernacle, c'est-à-dire à être présent à Jésus Eucharistie, c'est-à-dire à prendre du temps pour être en présence de l'Eucharistie. Cela est lié, elle n'est pas dans une congrégation contemplative. D'accord ? Ce n'est pas une bénédictine. Elle est dans le monde. Et lié à cette contemplation, il y a le service des prêtres. Et une grande attention au service des prêtres, au service concret et matériel. Sainte Carmen Elena, par exemple, va fonder des communautés qui se placent au service des séminaristes pour les aider. Mais il y a aussi une dimension spirituelle dans l'accompagnement des prêtres. Il s'agit, par l'adoration, d'être comme Marie au pied de la croix et Saint Jean l'évangéliste. Vous voyez, Saint Jean est la figure du prêtre et Marie la figure de la religieuse. Ça vient de Mère Onésime, qui a beaucoup parlé de ça. Et donc, ce rapport au sacerdoce et à l'intercession pour le sacerdoce est central dans la spiritualité de Sainte Carmen Elena. Mais fidèle à Mère Onésime Guibray, toulousaine, elle parle de l'adoration perpétuelle intérieure. Et là, c'est très important parce qu'on touche à l'actualité de l'Église. Vous savez que quand on proclame un saint, il y a une liturgie propre pour le saint, une messe et les offices, les lodes, les vêpres. Donc il y a une liturgie propre de Sainte Carmen Elena et pour l'office des lectures, certains de ses écrits deviennent des textes liturgiques. Et le texte qui a été retenu en deuxième lecture de l'office des lectures, qui sera donc récité pour la première fois le 9 mai 2026, est un texte où elle parle de garder la porte ouverte à Jésus. C'est un texte que vous pouvez trouver sur Internet, où elle explique que l'adoration, c'est aussi la contemplation du Seigneur qui est en nous par la communion. Nous sommes des tabernacles. C'est-à-dire, c'est l'adoration en présence de l'Eucharistie, du temps qu'on donne, mais aussi la conscience que, parce que nous communions, nous sommes porteurs de Dieu en nous. Et elle insistait sur le fait de porter comme signe distinctif de sa congrégation un ostensoire, mais ça c'est Mère Onésime à Toulouse qu'il avait fait, en guise de croix. C'est-à-dire que notre cœur est le lieu d'expression du divin. Ce qu'elle appelle l'adoration perpétuelle intérieure. Mais il y a une dimension très importante aussi chez Sainte Carmen Elena, qui est la réparation. Alors, la réparation devant le Saint-Sacrement est une pratique ancienne que Mère Onésime à Toulouse avait beaucoup développée et qui est une prière pour les pécheurs, mais une prière, pourrait-on dire, de compensation. C'est une forme sublime de la charité ou de l'amour. Ce n'est pas... aujourd'hui, on parle beaucoup de réparer le monde, l'homme réparé. Vous voyez, ça peut, oui, ça peut nous faire penser à tout ça. Oui. C'est, là, la notion de réparation, c'est vraiment l'idée que quand je me place en prière, je peux compenser le mal qui est commis par d'autres. Et c'est, je dis, une forme sublime de la charité parce que c'est la prière qui est donnée comme signe d'amour à ceux qui n'aiment pas, mais dans un mystère qui est celui de la communion des saints, une sorte d'énergie qui est transmise par la prière. Et cette préoccupation, elle est constante dans l'Église. Ici, à Toulouse, c'est le cri de Saint Dominique, « Seigneur, que vont devenir les pécheurs ?» Cette préoccupation pour ceux qui sont loin des préoccupations spirituelles. L'adoration de réparation est un acte d'amour. Ce n'est pas un acte de jugement à l'égard de ceux qui doivent être réparés.
Et c'est l'acte suprême de charité,
oui,
que l'on peut souligner. Si on devait parler d'un charisme particulier, là je pense à ceux et celles qui découvrent peut-être aujourd'hui, et puis c'est la première fois que nous allons fêter ce 9 mai 2026, Sainte Carmen Elena, on peut demander certainement aussi beaucoup de grâce aussi pour être invité à se rapprocher du cœur de Jésus et puis de se rapprocher de cette adoration eucharistique. Si on parle de charisme, quel est son charisme? Qu'est-ce qu'on devrait retenir de Sainte Carmen Elena à la fin de cette émission aujourd'hui avec vous, François Bonfils?
Alors, il est difficile pour moi de retenir des choses, comment dire, extrêmement cadrées. C'est une sainte contemporaine qui n'a pas encore donné toutes ses leçons spirituelles. Le message d'un saint, il s'inscrit aussi dans le temps. Hein. Il faut bien avoir conscience qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont connue, et donc on a un rapport très personnel à cette sainte. C'est pas comme certains saints anciens, si vous voulez, qui ont des charismes bien définis et dont l'Église transmet l'enseignement d'une façon... bien déterminée. Sainte Carmen Elena est une sainte dont le message est en voie de transmission. Ses textes, elle a énormément écrit. Ses textes ne sont pas encore publiés tous, encore moins traduits.
Est-ce qu'il y a un livre, une biographie de Sainte Carmen Elena?
Alors, il y a des ouvrages en espagnol. Oui. En langue française, il n'y a rien. Il y a des projets. Il y a des projets de vivre qui viendront peut-être.
Il y a des projets.
Mais on trouve sur Internet quand même quelques informations en langue française.
On peut dire que Sainte Carmen Elena est une mystique.
Alors, mystique au sens où les Thérèse d'Avila, qui connaît des extases, ou Catherine de Sienne, je pense que non. Mais en revanche, elle est une maîtresse spirituelle. Sa vie intérieure, elle en a assez peu parlé. Elle n'a pas décrit de phénomènes extatiques, même s'il y a des phénomènes miraculeux dans sa vie. Donc on ne peut pas dire au sens strict qu'elle soit une mystique. Mais c'est une maîtresse spirituelle parce qu'elle donne des enseignements qu'elle reprend à sa fondatrice, de sa fondatrice toulousaine, et elle donne des enseignements concrets pour vivre la vie spirituelle. Beaucoup de mystiques ont donné des enseignements concrets pour atteindre la vie mystique. Mais Carmen Elena, en tout cas à ma connaissance, n'a pas décrit ses expériences personnelles. En revanche, elle donne des méthodes. Alors, elle est assez... Elle renvoie ici à des pratiques qui étaient donc des pratiques à Toulouse au XIXe siècle, qui sont donc encore en œuvre dans sa congrégation, qui est maintenant répandue dans plusieurs pays, et avec des branches de filiation laïque. Par exemple, elle proposait une pratique qu'on appelle l'acte d'adoration, qui consiste toutes les heures, lorsque la montre sonne, à réciter une prière bien particulière. Elle a donné des méthodes spécifiques de prière. Par exemple, prier toutes les heures, mettre un genou à terre quand l'horloge sonne. Pour vous donner, mais ça c'est un petit détail, mais c'est pour qu'on savait. Hein, faire un acte d'adoration chaque fois, toutes les heures.
Donc Sainte Carmen Elena appelle à l'adoration, l'adoration perpétuelle. Au fond, elle appelle à cette union, à ce cœur à cœur avec Jésus, à cette contemplation dans une gratuité. Qu'est-ce qu'elle peut, dans l'actualité d'aujourd'hui, frère François Bonfils, qu'est-ce qu'on peut retenir là? On nous écoute, certains découvrent Sainte Carmen Elena peut-être pour la première fois. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut garder pour soi, pour peut-être approfondir soi-même son cheminement spirituel et peut-être, et au fond, cette vie de prière qui devient une vie de prière eucharistique dans la contemplation de Jésus au tabernacle?
Alors, Pour moi, en tout cas, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est, je crois que Sainte Carmen Elena nous invite véritablement à retrouver nos racines à Toulouse, à redécouvrir des modèles de sainteté qui sont quasiment totalement oubliés ou bien qui ont été trahis en France. Donc, c'est une sainte qui nous aide à nous retrouver nous-mêmes. Elle appelait Toulouse mon berceau spirituel. Donc, peut-être que nous avons des choses à redécouvrir au plan historique et spirituel et des pratiques. Mais dans ces écrits, que j'ai pu lire, je suis très frappé par son rapport au temps et à cette question du handicap que nous évoquions au début. On peut dire que Sainte Carmen Elena est une illustration dans la vie chrétienne de ce qu'en psychologie on appelle la résilience. Et il y a tout un travail durant sa vie pour vivre malgré ses limites jusqu'à un degré héroïque. La sainteté est un degré héroïque de la vie chrétienne. Réussir à transformer ces limitations en lieu de sa propre identité spirituelle. Au début de l'émission, on le disait, mon handicap est une grâce. Ma limite est le lieu où je rencontre Dieu. C'est quand je suis faible que je suis fort. Ça, c'est la Bible qui nous le dit. Et alors, elle avait une... Ce travail de résilience est un travail constant et quotidien chez elle. Parce que le handicap, elle portait une prothèse très lourde dans sa jeunesse, dans les années 1910. Au Venezuela, elle avait des prothèses en bois qui étaient purement esthétiques, mais qui ne compensaient pas sa capacité d'appréhension des choses. Elle portait cette prothèse un peu comme une croix. Et elle va formuler une phrase, enfin, elle va expliquer que le temps est quelque chose de très précieux. Que la sainteté à laquelle elle aspirait n'est pas simplement un don, mais que c'est aussi le fruit d'un travail. Réussir un projet existentiel qu'elle a eu très jeune, c'est viser quelque chose. Ce qu'on appellerait réussir une vie bonne. Et pour elle, la vie bonne, ça a été la vie de religieuse accomplie. Et c'est pour ça qu'elle a été extrêmement rigoureuse dans la fidélité au charisme qu'elle avait reçu à Toulouse et qu'elle a beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait, dans le cours du temps, jour après jour, je la cite, « il faut profiter du temps minute après minute pour la gloire de Dieu ». Et elle prend une métaphore où elle dit « le temps passe comme un train, rapidement, et il ne fait que deux arrêts, du berceau à la sépulture ». Mais je pense qu'elle a fait son train à elle a fait un arrêt un petit peu particulier, puisque du berceau à la sépulture, il y a eu un autre berceau qui est Toulouse. Elle disait « Toulouse est mon berceau ». Elle est renée à Toulouse. La vie religieuse a été pour elle comme une nouvelle vie où la possibilité d'atteindre la contemplation et de mettre en action son désir d'union à Dieu est venue lui permettre de dépasser ses limitations. Elle nous invite véritablement à aimer aujourd'hui et jour après jour. Et en cela, je pense que vos auditeurs seront heureux d'entendre qu'elle a fait mettre une statue de Sainte Thérèse de Lisieux dans la chapelle qu'elle a fait construire, la première chapelle qu'elle a fait construire à Caracas, imitant la chapelle de son berceau toulousain. Thérèse de Lisieux qui nous dit « Pour aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. » Ce rapport au temps, à l'urgence quotidienne de l'amour, que lui rappelle sa limitation, me semble être un des messages spirituels forts de Sainte Carmen Elena.
Merci infiniment François Bonfils d'avoir partagé ce regard bien vivant de Sainte Carmen Elena, une sainte qui d'une certaine manière nous relie encore et nous relie profondément à cette ville de Toulouse, avec cette devise que vous avez dit et rappelée au cours de cette émission, Vive Jésus Hostie. Donc chers auditeurs, découvrez Sainte Carmen Elena, priez cette neuvaine à Sainte Carmen Elena, le ciel descend et le ciel a donné aussi des vies qui ont été données, offertes, telles que cette vie de Sainte Carmen Elena. Merci infiniment François Bonfils et puis à très bientôt, je l'espère.
Merci.
Avec Sainte Carmen Elena.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.